Si vous n'aimez pas l'histoire, on tâchera de vous la faire aimer. Si vous l'aimez, on tâchera de ne pas vous dérouter. Les Chemins du Passé, association d'histoire basée à Saint-Symphorien-de-Laye, vous propose de partager des moments de notre histoire en essayant de la rendre vivante, même si la manière de les présenter parfois imaginée, faits et personnages sont véridiques.
Micro-histoire sur RVR, présentée aujourd'hui par Maud Sénat, Claude Janin et Xavier Maga.
Claude, empire ou pas ?
La rue des Tables Claudiennes est très connue à Lyon, particulièrement dans les pentes de Croix-Rousse. Des tables qui, pour être lyonnaises, n'en sont pas gastronomiques. Elles furent gravées et nous viennent de la nuit des temps antiques. Ces tables font référence à l'empereur romain Claude, qui est à Lyon l'objet d'une intéressante exposition cette année. Deux historiens sont là pour nous éclairer sur ces tables et cet empereur très lyonnais, et en préparant cette émission, j'ai cru comprendre qu'ils n'étaient pas tout à fait d'accord sur la personnalité et le parcours de Claude.
Mais oui, Claude. Alors, bon, au départ, on peut pas vraiment dire qu'il avait grand-chose pour devenir empereur. Il était boiteux, bégayant, et il n'avait pas vraiment la prestance nécessaire pour représenter l'Empire. D'ailleurs, la seule trace qu'il laissera dans l'histoire, c'est son nom, dû à sa claudication.
Vous êtes bien caricatural, car finalement, il a tout de même été empereur de 41 à 54. C'est quand même près de 13 ans.
Ah ben justement, qu'a-t-il fait ? Déjà sans famille, il a eu 4 femmes, hein, dont une qu'il a fait exécuter pour dépravation, sympa, ou intrigue politique, on ne sait pas trop. Bon, le bilan de son fils adoptif, Néron, n'est pas trop glorieux non plus.
Oui, mais lui aussi, il a été injustement dénigré, comme vous dénigrez Claude. Car il n'était pas le Benet tel que vous le dépeignez. Il a même été un intellectuel qui a eu de nombreux écrits d'histoire sur le règne d'Auguste, les Tyréniens, le Carthage. Carthage en 8 volumes, s'il vous plaît. Et il a proposé une réforme de l'alphabet latin en y ajoutant 3 nouvelles lettres, dont 2 qui sont encore utilisées aujourd'hui, le V et le Y.
Ah, tiens donc, un inventeur maintenant. Alors, plutôt que sa tête, il écoutait plutôt son ventre. Et il finit gravé et inconscient à la fin de plus d'un repas et plus d'une orgie.
Ça y est, vous ramenez ça à des luttes intestines. Vous le dénigrez parce que vous référez trop à ses détracteurs de l'époque, comme Sénèque, ou comme des membres du Sénat romain qui ne l'appréciaient guère parce qu'il était, lui, apprécié du peuple et se défiait de la toute-puissance du Sénat.
Ouais, enfin, alors là, on ne sait pas s'il n'a pas trempé dans l'assassinat de Caligula, car il était avec lui juste avant son agression.
Oui, mais il n'y a aucune preuve, et le Sénat qui l'avait auditionné à l'époque à ce sujet n'a pas pu trouver non plus de preuves sur sa culpabilité.
Oui, toujours est-il qu'il s'est retrouvé empereur grâce à un concours de circonstances. Le seul concours qu'il ait jamais gagné d'ailleurs.
C'est ça, oui. Mais ce n'est pas si simple. Et la réalité est certainement plus nuancée. Certes, né à Lyon en 10 avant notre ère, certes, il a été le premier empereur non originaire de Rome, ce qui n'était pas favorable pour lui. Et durant sa jeunesse, il avait été mis à l'écart de la vie publique à cause de ses infirmités, d'ailleurs réelles ou supposées.
Réelles.
Mais s'il n'a pas été désigné par les notables, il a en revanche été élu par les prétoriens, à l'insu du Sénat.
Ouais.
C'est ce que celui-ci lui reprochait d'ailleurs.
Bah alors soyons constructifs, il a fait quoi d'après vous ?
Eh bien, il sut d'abord se faire accepter avec intelligence, une fois empereur, dénotant d'ailleurs l'imbécilité dont on le targuait. Car dès son avènement, il s'emploie à rassurer, à restaurer sa réputation, à asseoir sa légitimité. Il décrète par exemple immédiatement une amnistie générale. Seul Cassius Carrea, meurtrier de Caligula, est exécuté, car on ne peut impunément assassiner un empereur.
Ouais, bon, c'est de la démagogie facile.
Hein. Oui, peut-être, mais il est rigoureux aussi avec lui-même. Il attend 30 jours avant de venir accepter les honneurs et les titres dus à l'empereur. De même que celui de père de la patrie qu'il ne prendra qu'un an plus tard. En outre, sous son règne, l'Empire connaît une nouvelle expansion. Des territoires déjà sous protectorat romain sont annexés, le Norique, la Judée, la Maurétanie. Et la Bretagne sont envahies et lui valent un triomphe.
Oui, des conquêtes militaires propres à la plupart des empereurs.
Vous avez raison, mais je crois que ce qui est le plus à son honneur et le plus original, c'est son esprit d'ouverture qui s'est manifesté à plusieurs occasions. Il a ainsi ouvert la citoyenneté romaine au peuple vaincu. Il a naturalisé à titre individuel de nombreux orientaux. Dans les territoires occupés, il crée des colonies romaines où il a promu des cités latines au statut de colonie, ce qui est revenu à naturaliser romains collectivement leurs résidents qui étaient libres. En reconnaissance, ces cités d'ailleurs ont inséré le nom de Claude dans leur toponyme. Lugdunum devient la Colonia Copia Claudia Augusta Lugdunum. Cologne, la Colonia Claudia Ara Agrippinantium.
Et vous parlez d'une ouverture. Vouloir voir en toge tous les Grecs, les Gaulois, les Espagnols et les Bretons, peuples barbares et vaincus.
Oui, alors ça c'est marrant parce que c'est exactement ce qu'a dit à l'époque Sénèque dans sa critique. On voit où sont vos inspirations.
Oui, mais c'est un fait.
C'est un fait, mais continuons. Une autre preuve de son esprit d'ouverture est la table claudienne, gravée à Lugdunum pour la reconnaissance de ces faits. Ces deux fragments encore existants sont exposés au musée gallo-romain de Lyon. Et une rue de Croix-Rousse, là où ils furent trouvés, porte le nom de rue des tables claudiennes. Il serait plus exact d'ailleurs de dire de la table claudienne.
Mais et alors, c'est quoi ces tables ou cette table?
Eh bien, elle fut gravée en mémoire du discours prononcé par Claude en faveur de l'entrée au Sénat romain des notables de la Gaule chevelue. C'était d'autant plus courageux de sa part que cette proposition se heurtait soit à des réticences d'ordre culturel et politique, soit à un obstacle juridique. Mais il en était conscient, introduisant ainsi son discours devant les sénateurs. Je cite « Certes, je prévois l'objection qui, se présentant à la pensée de tous, me sera la première opposée. Mais ne vous révoltez pas contre la proposition que je fais et ne la considérez point comme une nouveauté dangereuse. » Voyez plutôt combien de changements ont eu lieu dans cette cité et combien, dès l'origine, les formes de notre République ont varié. N'était-ce pas déjà une belle manière d'introduire une innovation ? Claude répondait ainsi à une requête du Conseil des Trois Gaules, lui demandant d'ouvrir les magistratures et le Sénat romain aux notables de la Gaule chevelue. Les Gaulois obtinrent satisfaction, et Claude avec eux. Les Éduains d'abord, puis tous les peuples de la Gaule chevelue.
Et c'était ouvrir le Sénat à tous les vents.
Oui, oui, peut-être, mais c'était un bel exemple de volonté d'intégration et qui n'était pas inconsidéré, car la citoyenneté ou le statut de sénateur pouvait être enlevé en cas de manquement grave.
Et cela ne l'a pas empêché de mourir empoisonné.
Ah ça, c'est clair, hein. Il est mort en 54 et son empoisonnement est très fort probable, orchestré par sa femme Agrippine pour favoriser l'avenue au trône de son fils Néron.
Qui, lui-même, n'était pas un modèle du genre.
Mais qui, lui aussi, n'était pas aimé du Sénat parce que trop populaire et à qui l'on a prêté de nombreux méfaits, dont l'incendie de Rome, fait qui est contesté aujourd'hui.
Merci messieurs pour ce débat. 2000 ans plus tard, Claude de Lyon soulève encore de nombreux et intenses débats.
Merci à vous.
Merci.
Micro-histoire sur RVR, présenté aujourd'hui par Maud Sénat, Claude Janin et Xavier Magat.